Sportez-vous bien.
Sportez-vous bien.
Sportez-vous bien. L'actualité sportive commentée par Jean Sureda.
Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien sur Radio Présence pour la première de l'année 2019. Comme tous les lundis, les chroniqueurs et moi-même vous donnerons les dernières infos sportives de la région tout en balayant l'actualité de la semaine avec des invités qui font le sport de haut niveau. Au programme ce soir, les éternels coups de cœur et coups de gueule de nos chroniqueurs. Lucas Serdic vous donnera l'agenda de la semaine et nous recevrons Arnaud Mongeny, président des Ours, club de football américain. Avec nous ce soir, Lucas Serdic. Bonsoir Lucas.
Bonsoir Jean.
Maxime Brossard, bonsoir Maxime.
Bonsoir.
Et Timothée Rouvière, bonsoir Timothée.
Bonsoir Jean.
Messieurs, bonsoir.
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 Pour cette première année, pour cette première de l'année 2019, comment ça va? Tout d'abord, bonne année et bonne année aux auditeurs de Radio
oui.
Présence.
Bonne année, oui.
Et bonne santé surtout.
Vous avez été gâté durant ces fêtes, Lucas Serdic.
Ben oui, étonnamment, je m'attendais. Vous savez, je suis vieux maintenant, alors 30 ans, on s'attend plus à avoir autant de cadeaux, mais si, j'ai été extrêmement gâté. Regardez cette magnifique chemise.
L'enfant
c'est,
roi.
C'est une chemise.
C'est une chemise de Noël.
C'est la chemise de Noël. Elle est belle, magnifique.
Mais c'est quoi? C'est des pissenlits, je crois. Non, des pissenlits, ouais.
Je crois.
Une magnifique chemise joli,
c'est de bucolique.
Voilà. Il y a eu quoi?
Il y a des belles chaussettes lapin crétin. Regardez, je les ai. Ouais.
Elles sont magnifiques. Elles sont toutes grises. Elles sont exceptionnelles.
C'est dommage qu'on ne filme pas quand même.
Dommage qu'on ne soit pas filmé. Voilà.
Elles sont exceptionnelles. Voilà. Et vous, Maxime?
J'ai eu
une montre connectée, on la voit là.
Ouais, c'est pour le sport.
Faut le dire, d'habitude il a les manches bien jusqu'au poignet. Là, il a bien remonté les manches pour
faire briller.
C'est une montre bracelet, hein, elle est très fine. Hein.
Ouais, elle est fine, ouais, mais c'est pour le sport, voilà. Comme ça, je peux évaluer mes performances.
Soulever de la fonte et savoir exactement combien.
Voilà, la course là surtout, c'est pour la course.
Vous avez marché beaucoup aujourd'hui ou pas?
Non, là aujourd'hui j'étais un gros feignant. En fait, je suis resté au bureau et j'ai fait des articles et du coup j'ai fait 4 km quoi. C'est rien du tout.
Samedi j'ai marché 20 km, figure-toi, pour couvrir la manifestation. 20 km,
ah ouais, c'est
pas mal.
Ça commence à faire.
Ça commence à se voir.
Non, c'est faux. Alors ça, c'est n'importe quoi.
Encore 2-3 manifs et c'est bon.
Par contre, j'ai pris que 500 grammes pendant les fêtes, étonnamment. Parce que finalement, je mange beaucoup en dehors des fêtes aussi.
Moi j'ai mangé raclette chez mon oncle et ma tante Isabelle et Marc, je salue. Ah.
Salut Isabelle, salut Marc.
Qu'est-ce qu'on a mangé? C'était incroyable. Timothée Rouvière, qu'est-ce que vous avez eu pour Noël?
Okay, j'ai refait ma garde-robe moi. J'ai refait ma garde-robe l'entièreté, je passe dans les magasins là et samedi.
Comme ce pull avec une tache bizarre sur l'épaule.
Non, je ne vois pas de quoi vous parlez, vraiment.
Ah mince.
Vraiment pas. Non, pas celui-là, mais des bonnes fêtes de Noël. J'ai perdu du poids moi, étonnamment.
Ah ouais, mais
1,4 kg, voilà. Je sais pas comment c'est possible.
C'est vraiment pas juste quoi.
Le jour où je perds 1,4 kg
pendant les fêtes.
Oh, il nage à Toulouse, ouais.
Exactement.
J'espère que vous êtes prêts, messieurs, pour cette première de l'année 2019. On démarre maintenant avec les coups de cœur et les coups de gueule.
Sportez-vous bien, les coups de cœur et les coups de gueule.
Chaque semaine, vous nous parlerez d'un événement qui vous a marqué. Et je dois dire qu'aujourd'hui, ça va. Pour la première de l'année, ça va. On va commencer avec vous, Timothée Rouvière, puisqu'il y a le lancement du Paris-Dakar.
Oui, tout à fait. C'est aujourd'hui que ça débute, le Dakar qui s'est lancé du Pérou. Pour une édition 100% sable, donc pas mal de suspense. Le Dakar qui commence aujourd'hui, je le disais, qui se termine le 17 janvier prochain, c'est la 41e édition. Et donc, étonnamment, ça se passe que dans un seul pays.
C'est la première fois.
Au Pérou, c'est la première fois, parce que les politiques d'austérité et les différents gouvernements successifs des autres pays sud-américains n'ont pas souhaité accueillir l'édition cette année. Pas mal d'enjeux, comme je le disais, notamment du côté des autos, avec Carlos Sainz, Stéphane Peter-Hansel, le Qatari Nasser Al-Attiyah, Cyril Desprez, Gilles De Villiers ou encore Nani Roma. Donc ça va être une belle édition et on pense aussi à Sébastien Loeb qui va concourir sous une écurie privée pour la première fois. Donc on verra ce qu'il donne.
En fait, il garde la Peugeot.
Il garde la Peugeot, mais tout simplement voilà. Il s'est entraîné de son côté. Du côté des motos, on a les trois derniers vainqueurs, donc Sam Sunderland, Mathias Wagner et Toby Fry.
C'est KTM ça, non?
Voilà, c'est chez KTM. Ouais. Donc KTM qui gagne depuis 2000 a quand même pas mal de chances de remporter cette année. On suivra quand même les Français Xavier De Soultré et Adrien Van Beveren. Mais mon coup de cœur, c'est aussi sur un petit garçon qui s'appelle Lucas Barone. Bon, je dis petit, mais c'est un garçon qui a 25 ans. C'est un garçon qui est trisomique, qui est péruvien et qui, pour la première fois, participe au Dakar avec son papa en tant que copilote. Donc,
c'est le petit
clin d'œil là.
Des belles histoires comme le Dakar en fait. Mais bon, à part, enfin, moi je fais partie des gens qui ont grandi avec le Dakar à l'époque où c'était encore en Afrique. Et puis voilà, j'ai un peu de mal avec le Dakar. Est-ce qu'il est venu? Est-ce qu'on est encore aussi fan qu'avant?
Le Dakar a un peu perdu question d'identité. Déjà, le fait d'appeler ça Dakar et de faire ça en Amérique du Sud, il y a un problème.
Puis, là, j'ai l'impression qu'en plus, ça continue un peu de perdre de sa superbe. Quoi, parce que si maintenant, même les autres pays d'Amérique du Sud ne veulent plus le faire, on va bientôt le faire au pôle Nord, ou je ne sais pas comment ça va se passer.
On parle d'un retour en Afrique. Mais d'ailleurs, en Afrique, il y a toujours une course qui se fait et qui a été lancée il y a deux semaines, et qui est une semaine, je ne sais plus, et qui est considérée un petit peu comme le vrai Dakar maintenant. Oui, enfin, par certains, en tout cas.
C'était pour des raisons de sécurité que le Dakar était parti de l'Afrique, si je me souviens. Parce que ça passait en Mauritanie. À l'époque, il y avait le Front Polisario, je me rappelle.
Niger aussi, je crois.
Ouais.
Bref, je sais pas, moi je pense
que... On suit beaucoup moins quand même le
J'ai l'impression, et puis il n'y a plus Gérard Moltz alors voilà.
Ah oui, c'était la voix du Dakar. Vive le sport.
Un sport qu'on suit un peu plus en France, c'est le rugby. Et c'est le coup de cœur, le coup de gueule.
Oui, de gueule.
De vous, Maxime Brossard.
Oui, oui, moi je commence l'année par un coup de gueule, parce que j'en ai marre de ces mercatos déjà incompréhensibles du rugby. On ne sait pas quand est-ce qu'on peut recruter ni quand est-ce qu'on ne peut pas. On a des recrues de partout. Et puis là, surtout, ce qui me fait mal au cœur, c'est que hier, je suis allé voir les jeunes U20 Développement, l'équipe de France U20 Développement, donc contre l'Italie, jouer à Castanet. Ils ont gagné 40-10 brillamment. C'était super joueur, c'est magnifique. On se dit que le vivier français est riche. Et même inépuisable. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit quand on ouvre les journaux ce matin? Eh bien, des recrues à tout va. J'ai vu aussi un article très intéressant de Midi Olympique sur, on va dire, un peu la frénésie autour des All Blacks, puisque à la fin de la Coupe du Monde 2019, beaucoup d'All Blacks seront sans contrat. Et donc, il y a énormément de clubs français qui essaient de s'arracher les All Blacks. Bon, c'est très bien d'avoir All Blacks. Je prends l'exemple, notamment, je vous fais un petit clin d'œil, Lucas, avec La Rochelle. Je sais que vous êtes un fervent supporter de Victor Vito. Lui est un joueur vraiment All Black, voilà, qui a apporté quelque chose à cette équipe. J'ai l'impression qu'il a vraiment apporté une autre dimension, a pris aussi plusieurs joueurs sous son aile, mais c'est pas le cas de tous les All Black. Et j'ai l'impression que là, ça va être encore la course à l'armement, et que finalement, c'est les jeunes qui vont en payer les pots cassés, puisque derrière, les postes clés vont être occupés encore par des joueurs auxquels on peut pas leur en vouloir. Et déjà, ils ont un palmarès, et puis en plus, quand vous casquez, vous êtes forcément un peu obligé de les faire jouer, quoi. C'est ça que je regrette.
Est-ce qu'il ne faut pas mettre un quota, messieurs? On compare toujours, et on prend l'exemple aussi du football anglais. Alors, à l'exception de cette demi-finale de Coupe du Monde cet été, ils n'ont quasiment rien fait depuis des années et des années, parce que tous les joueurs, justement, vont en Angleterre et prennent la place des jeunes anglais. Là, c'est le même problème qui se passe en France. Mais est-ce qu'il ne faut pas mettre des quotas pour éviter les joueurs étrangers?
Il faudrait mettre instaurer des vrais quotas.
Il y a un paquet de présidents qui serait contre, et le président de la Ligue aussi qui serait contre, évidemment.
C'est un spectacle.
Ce serait, voilà, je sais pas.
Ce genre de joueurs remplissent les stades, donc forcément.
Il faudrait peut-être. Faut regarder les clubs qui marchent aujourd'hui. Ouais. Effectivement, si jamais il y a des clubs comme La Rochelle qu'on a cité, qui font jouer des jeunes français et qui sont finalement plus spectaculaires qu'avec des recrues néo-zélandaises, peut-être que ça va donner une bonne leçon à la Ligue.
Quelque chose que les Anglais font. C'est-à-dire qu'à la place d'avoir des amendes en Angleterre, dans les clubs de la première division, on vous récompense financièrement les équipes qui font jouer les jeunes, en fait.
Ça peut être une idée, Ça peut être une idée. Le rugby anglais se porte bien, lui, en tout cas.
Oui.
On verra bien si les quotas vont avoir lieu, et si bien quels joueurs néo-zélandais vont signer dans quel club français.
Ah ben déjà, il y en a quelques-uns déjà. Coraline est contente à la régie. Il y a Ben Smith qui arrive l'année prochaine.
À Pau.
All Black. Ouais.
D'ailleurs, Pau s'est imposé ce week-end.
Ouais. Elle était
contente. Elle était contente.
On annonce d'ailleurs une vague de neige sur toute la France la semaine prochaine.
Saint-Tropez, je crois aussi.
À Saint-Tropez. Oula.
Lucas Cerdic, coup de cœur sur les playoffs. De la NFL.
Et oui, ça y est, ils sont de retour. La NFL, le football américain, on en parle, puisque notre invité tout à l'heure sera le président du club de football américain de Toulouse. La NFL, les playoffs qui ont repris ce week-end avec 4 matchs et notamment un que j'ai pu suivre jusque tard dans la nuit, puisque je ne travaillais pas aujourd'hui. Les Bears contre les Eagles de Philadelphie. Chicago Bears contre les Eagles de Philadelphie, qui ont gagné le Super Bowl l'année dernière et qui étaient vraiment mal partis. Ils n'avaient pas fait une très belle saison régulière, et là ils jouaient chez les Bears, qui était vraiment une équipe a priori sur le papier favorite, et on a eu un match incroyable, pas tant de touchdowns que ça s'est terminé à 16-15, mais un suspense insoutenable. Alors pour ceux qui suivent pas trop la NFL, je vais quand même essayer de vous résumer très rapidement la dernière action avec les Bears qui menaient de 5 points, Philadelphie qui avait l'occasion de mettre un touchdown alors qu'il restait moins d'une minute, ils étaient à 2 yards de la ligne. ligne, 4 essais. Beaucoup d'équipes, dans ces cas-là, comme les Bears, auraient peut-être laissé passer le touchdown assez rapidement pour pouvoir remonter la balle et derrière marquer quand même marquer des points pour essayer de gagner le match. Eux, ils ont choisi de faire confiance à leur défense. Ils ont repoussé une fois, deux fois, trois fois. La quatrième fois, le touchdown est passé. Donc Philadelphie est repassée devant pour un point. Ils ont tenté la transformation à deux points. Vous savez, c'est quand
quand on va pour marquer.
Au lieu de taper au pied, comme au rugby, et ça vaut un point de plus, on essaye de passer un nouveau touchdown depuis 5 yards en un essai. Et ça rapporte deux points de plus. C'était pour avoir trois points d'avance et pour être à l'abri d'un éventuel field goal. Ce qu'on appelle, ce qu'on appelle un field goal, c'est l'équivalent d'un drop au rugby. Voilà, donc trois points. Ça aurait fait un match nul. Bon, bref. Ils n'arrivent pas à passer la transformation, mais pour un millimètre, il reste 35 secondes, les Bears récupèrent la balle, ils n'ont pas beaucoup de temps pour remonter le terrain et tenter justement un field goal, un coup de pied à 3 points. Ils y arrivent, ils se mettent en position, le gars qui est là, qui est payé juste pour taper, il est là que pour ça, que pour taper un field goal à 3 points et donner la victoire à son équipe, rentre sur le terrain, il reste 15 secondes, là l'entraîneur de l'équipe adverse, au moment où il allait taper, pose un temps mort, il a le droit, il déstabilise complètement le tireur qui, pour le coup, avait dans la saison pas eu de bol à un moment donné. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il avait tapé 4 field goals dans un match sur le poteau.
Voilà.
C'est à peu près aussi rare de taper un poteau au football américain qu'au rugby.
Ah oui, c'est vrai.
Voilà, c'est vraiment rare. Il l'avait fait 4 fois sur le même match. Là, il a la possibilité de donner la qualification à son équipe. Il faut savoir que sur le field goal juste avant où l'entraîneur fait le temps mort, là, il l'avait passé. Mais bon, ça comptait pas parce qu'il y a eu temps mort. Mmh. Donc là, il reste 10 secondes, il a le moyen de le faire. Il tape, inexorablement, la balle va vers la gauche, tape le poteau gauche, rebondit sur la transversale. Et ressort.
et donc le
kicker n'arrive pas à faire gagner son équipe. Les Bears sont éliminés. Les Eagles, qui sont les tenants du titre, continuent. Et voilà, on est vraiment sur des playoffs qui s'annoncent encore très très beaux. Et le Super Bowl, c'est dans pile poil un mois.
Et on va parler football américain avec notre invité Arnaud Mongeny, qui est le président des Ours. Et on se retrouve, nous, dans moins de 4 minutes avec les conseils santé de Didier Rubio. À tout de suite.
Pa' que lo dan, mordiendo mis labios. atrás, está en mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo. Mordiendo mis labios verás que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo.
Say my name, if you love me, let me heal. Say my name, I am dying to believe you.
C'était David Guetta sur Radio Présence.
Sportez-vous bien, l'instant santé.
La chronique santé de retour en 2019 avec vous Didier Rubio. Tout d'abord, bonne année et bonjour.
Et bonjour Jean, et bonne année à, ben, à vous et puis à tous les auditeurs, bien sûr.
On en a parlé, il y a eu les fêtes, il y a eu Noël, il y a eu le Nouvel An. Et vous le voyez, j'ai pris quand même un peu, j'ai beaucoup mangé, j'ai bien fêté ça avec la nourriture. Et c'est grave, docteur?
Alors moi, j'espère simplement que les gens ont profité de cette trêve, hein, puisqu'en fait on appelle ça trêve, ça veut bien dire ce que ça veut dire.
C'est repos.
Eh oui, c'est repos, et donc du coup les sportifs le savent bien, hein, ils l'attendent sous avec impatience aussi, parce que les saisons sont difficiles, sont longues, rudes, et la trêve c'est fait pour ça, c'est vraiment vraiment fait pour se reposer. C'est un repos qui est global, hein, c'est-à-dire que hormonalement, par exemple, il y a des hormones qui vont un peu se stabiliser, le cortisol, la testostérone par exemple, ça apaise, et du coup socialement aussi ça permet quand même de se retrouver. Ça veut dire que parfois on est éloigné des siens. Tout ça, ça fait du bien, donc ça participe à l'équilibre finalement et à la santé globalement.
Et sur le côté de la nourriture brute, passez-moi l'expression, on a tendance à dire qu'à Noël on mange quand même beaucoup certes, mais des meilleurs produits. Est-ce que finalement c'est pas mieux pour le corps?
Oui, puisque c'était quand même une période de tout temps qui a fait où on a mis en avant des produits phares, des produits de bonne qualité.
Je le pense, canard, les huîtres, le saumon,
exactement.
Etc. Quoi.
Oui, alors après c'est centré sur la protéine, un peu trop si on devait regarder l'équilibre alimentaire, mais dans cette période-là, à la limite, c'est pas très très gênant. Et c'est vrai que les produits apportent des choses intéressantes, par exemple les huîtres, ce sont un aliment qui a une densité nutritionnelle très élevée. Ça veut dire qu'elle va apporter, les huîtres vont apporter par exemple de l'iode, du zinc, du magnésium, du sélénium. Beaucoup de ces éléments qu'on a du mal à trouver d'ailleurs dans d'autres aliments. Donc bon, pourquoi ne pas manger à ce moment-là. Le foie gras, c'est un très bon aliment aussi.
Oh oui, alors après, c'est très bon.
Vous confirmez. Mais maintenant, évidemment, l'apport calorique global, il va augmenter. Et c'est en ça qu'après, il faudra faire un petit peu attention. Je pense aussi, on mange aussi des fruits secs, on mange des fruits oléagineux, des noix.
Oui.
Et tout ça, évidemment, c'est quand même de très très bonne qualité.
Alors c'est bien de bien manger, des fois on mange trop. Comment on fait pour se détoxifier? On va en parler de la détox dans deux semaines, mais là, comment on fait pour se détoxifier en deux, trois leçons, entre guillemets?
Là, on va en fait détoxifier ou nettoyer, on va drainer, c'est toutes ces appellations qui veulent dire que, on va enlever quelque chose qui serait en trop, ou qui aurait encrassé un peu, par exemple le foie, c'est un organe essentiel. Donc là, je disais tout à l'heure qu'on avait des aliments de bonne qualité, mais on en a aussi qui viennent s'ajouter au plaisir gustatif, on va dire, par exemple, tout le sucre, pas mal de graisse quand même aussi, il faut avouer. Et bien sûr, l'alcool, pas pour tout le monde peut-être, mais
avec modération, bien évidemment.
Avec modération, mais ça fait quand même partie de ces moments de festivité. Et de fait, le foie, par exemple, va être un organe qui aura peut-être tendance à travailler beaucoup pendant cette période-là. Et on a moyen de l'apaiser un petit peu.
Le reposer.
La trêve du foie. C'est la trêve du foie, c'est ce qui va arriver avec les bonnes résolutions peut-être, donc que chacun prendra dans cette nouvelle année.
On espère que cette année se passera bien pour vous et pour les auditeurs de Radio Présence. Merci Didier.
Avec plaisir, merci Jean.
On le rappelle, vous êtes diététicien et nutritionniste du sport, spécialisé en éducation thérapeutique. Vous travaillez également à mi-temps, hôpital des enfants et aussi en activité libérale dans le sport et la santé. Vous avez été formé en qualité de vie au travail et dans le sport. En plus, vous êtes conférencier et micronutritionniste. Vos coordonnées sont à retrouver sur Radio Présence.
Portez-vous bien, l'agenda sportif.
L'agenda de la semaine avec vous, Lucas Serdic, pour ce premier agenda de l'année 2019. On va commencer comme d'habitude avec du rugby.
Oui, c'est normal. Là. Je veux dire, on a le choc de ce début d'année que tout le monde attend. Le Leinster contre le Stade Toulousain. Je ne sais pas s'il y a un match qu'on attend plus
en Coupe d'Or de rugby,
bien sûr, en Champions Cup. C'est pour le compte de la cinquième journée, le Stade Toulousain qui a fait 4 matchs, 4 victoires, dont le match aller à domicile face au Leinster, qui était un exploit puisque le Leinster n'avait pas perdu depuis 2 ans
double
champion d'Europe en titre. Et là, le Leinster, voilà, 3 victoires, 1 défaite. C'est le choc entre le deuxième et le premier de la poule 1. Ce sera samedi à 14h. Et voilà, je vous recommande très, très, très vivement de le suivre à la télé puisque ça risque d'être un très gros match. Le lendemain, on a aussi Castres qui va se déplacer sur la pelouse d'Exeter en Angleterre. Un match que les Castres auraient vraiment tout intérêt à gagner puisqu'ils sont pas si mal partis dans leur poule. Ils sont deuxième avec 9 points, à 3 points du premier. Le Munster qui se déplace à Gloucester, si je dis pas de bêtises. Voilà, Exeter-Castres, c'est dimanche à 14h. Les deux gros rendez-vous de la Champions Cup à suivre Exeter, pour nos autres auditeurs.
Premier en Angleterre, Exeter.
Oui, premier en Angleterre, etc. Donc ça va être un gros match. Voilà, le Stade Toulousain qui a marché sur l'eau, hein, pendant les fêtes. Vous avez tous suivi ça. Deux victoires et un match nul sur la pelouse de Clermont. Donc voilà, ça va. Un carton face à Toulon au Stadium un dimanche soir entre Noël et le jour de l'an.
Ah
un
bon, il y a eu un match
magnifique. Ouais, il y a eu un match. Ouais. Donc voilà, le Stade Toulousain qui marche très bien. Castres, c'est un peu moins bien. Il y a eu 2 défaites, mais une victoire à Grenoble à l'extérieur, 16-6 le week-end dernier. Donc à voir si nos deux équipes vont bien se comporter en Champions Cup. Pendant ce temps-là, il y aura aussi de la Challenge Cup. Ce sera aussi la cinquième journée. Et on aura un match, un duel franco-français intéressant à suivre vendredi soir à 20h45 entre le Stade français et Pau. Voilà, Pau qui va un tout petit peu mieux vu qu'ils ont gagné le week-end dernier.
Ça se voit qu'Aurélie, notre réalisatrice, elle est toute contente.
Un léger petit sourire.
Le cadeau de Noël était magnifique.
Oui, oui. Ah. Voilà.
Pau, et on va reprendre les bonnes habitudes en perdant au Stade français, c'est bien ça.
Non.
En plus, Pau qui a gagné contre une équipe qui était vraiment particulièrement en forme, c'était l'Union Bordeaux-Bègles, et une belle victoire 40-23. Vendredi 20h45 pour ce match, alors que Agen, samedi à 15h, va se déplacer en Italie à Benetton. Voilà, ce sera pour la Challenge Cup. Il y aura aussi la 17e journée de Pro D2 avec 3 matchs qui vont nous intéresser. Montauban qui se déplace à Bayonne chez le deuxième, gros match pour les Montalbanais, vendredi à 20h. Dans le même temps, Colomiers se déplace à Oyonnax. Alors là, Colomiers qui a quand même réussi à battre Brive. Hein,
incroyable.
Ce qui était pas mal, hein, une petite victoire 9-6, mais quand même, pour eux, c'est pas mal. Ils sont toujours avant-dernier et ils vont chez Oyonnax, 3e. Et dimanche à 14h15, il y aura Béziers contre Carcassonne. Voilà pour le rugby.
On passe au ballon rond, le football. Le TFC débute bien l'année.
Le TFC qui démarre bien l'année et qui l'avait bien terminé aussi. Le TFC qui s'est imposé face à Nice 4-1 en Coupe de France ce dimanche et qui avait gagné contre Lille à Lille 2-1 avant les fêtes.
Le LOSC qui joue ce soir, on le rappelle.
Voilà, contre Sochaux en 32e de finale de Coupe de France.
Il n'y a pas Joséphine ce soir.
Voilà, donc c'est la 20e journée. On est de Ligue 1 et dimanche à 17h, le TFC recevra Strasbourg, qui est une équipe vraiment en forme, qui est 7e du championnat. Le TFC est 13e. Ce serait pas mal de continuer sur cette belle dynamique pour le TFC, qui a donc gagné ce dimanche. On va écouter tout de suite d'ailleurs l'entraîneur du TFC après la victoire face à Nice.
La qualification, c'est quelque chose de très positif. Moi, j'ai vraiment envie d'aller le plus loin possible dans cette coupe et je pense que les joueurs ont bien entamé ce début de deuxième partie de saison et on fait le match qu'il fallait, même si le début de deuxième mi-temps m'a pas plu du tout, parce que on fait pas un bon début de deuxième mi-temps et on permet à Nice, par rapport à notre état d'esprit du début de seconde mi-temps, par rapport aussi, je pense, tactiquement, un réajustement de Nice. On ne fait pas le début de deuxième mi-temps qu'on doit faire et on permet à Nice de revenir dans le match. Mais sinon, je pense que l'équipe, sur le plan de la mentalité, sur le plan du jeu, elle a fait ce qu'il fallait pour faire un réel match de coupe et se qualifier.
Alors, entraîneur toulousain qui est satisfait. Le TFC qui a accueilli cet hiver l'arrivée d'un international japonais, Gen Choji, défenseur central international. Voilà, ça va être un peu l'attraction de ce début d'année aussi. Ça a déjà commencé, non?
Ça a déjà commencé. Il a été présenté à 1h du coup d'envoi hier avant le avant le match de Coupe de France, et beaucoup de journalistes japonais, donc c'est vrai que c'est pas habituel d'avoir des japonais en France. Et
c'est le
cas avec Sakai, avec l'Olympique de Marseille, où il y a des journalistes japonais qui suivent constamment ce joueur à Marseille.
Pour avoir couvert un match Marseille-TFC, j'étais à côté d'une journaliste japonaise justement qui était là que pour Hiroki Sakai.
Et il y a des mecs qui vont porter les maillots du TEF au Japon quand même maintenant.
Voilà, et donc ça va se poursuivre à Toulouse, où beaucoup de journalistes japonais vont venir.
On rappelle le rendez-vous, donc dimanche 17h, TFC Strasbourg, un tout petit mot de national, ce sera la 18e journée, vendredi à 20h, Pau se déplace à Chambly, le leader, et Rodez, 3e, se déplace à Cholet. On peut passer au handball pour dire rapidement qu'il
n'y
aura pas.
On va en parler tout de suite après. Mais...
voilà, puisqu'il y a la Coupe du Monde qui va démarrer. En volleyball, ce sera la 13e journée de Liga, Toulouse qui est 8e, les Spacers vont accueillir Chaumont 4e, ce sera vendredi à 20h, et un tout petit mot encore de hockey, il faut le dire, puisque là aussi c'est un choc, Toulouse-Clermont, il n'y a pas qu'en rugby. Toulouse, clairement, qui est leader, et les Belugas qui vont les accueillir samedi à 19h30. Si vous ne savez pas quoi faire, vraiment, allez-y. Ce sera toujours intéressant à regarder. Ce sera la 15e journée et il ne restera qu'un autre match à domicile avant les playoffs.
Merci Lucas Serdic. On va passer tout de suite au premier débat de l'année.
Sportez-vous bien. Le débat.
Jeudi débute la Coupe du Monde 2019 de handball. Double tenant du titre, l'équipe de France de Didier Deschamps fait office de très large favori pour reconserver son titre. Si les équipes démarrent sur la même ligne au départ, les Bleus semblent quand même avoir une longueur d'avance. Mais si on reprend les bonnes habitudes, et on répond que par oui ou par non, et ensuite on débat après. La question elle est toute simple, est-ce que la France est la seule au monde pour ce mondial? Lucas Serdic.
Non.
Maxime Brossard.
Non.
Et vous, Timothée Rouvière.
Oui.
Oui. Donc on va partir sur le nom, Lucas Serdic. Il y a beaucoup d'adversaires, mais la France quand même fait office de très large favori, on est d'accord.
Oui, grand favori si on veut, mais ce qui est bien et ce qui nous plaît dans cette équipe, c'est que justement elle a jamais eu un tournoi facile, il y a toujours eu de l'adversité, oui, je veux dire, ils ont jamais gagné, ils ont jamais marché sur les autres. Bon, allez, c'est peut-être arrivé à une compète ou deux, mais ça a toujours été difficile, et c'est pour ça qu'on les apprécie autant, justement. Et puis là, en plus, Karabatic ne sera pas là, il y a quand même beaucoup de l'ancienne génération qui a raccroché aujourd'hui. Donc c'est une génération qui a été vice-championne d'Europe et vice-championne olympique, non, médaille de bronze pardon, championne d'Europe et vice-championne olympique, donc qui n'a pas gagné toutes les dernières compétitions à laquelle elle a participé. Et bon, voilà, on le voit aujourd'hui même en Coupe d'Europe des clubs, Montpellier, même si l'année dernière on a eu trois clubs qui ont gagné, enfin qui ont fait les trois premiers, voilà,
on fait le podium de Ligue
des Champions avec Montpellier, Nantes et Paris, Montpellier tenant du titre aujourd'hui en Ligue des Champions, ils se font écraser, ils se font marcher dessus. Donc voilà, les clubs français, le Paris Saint-Germain qui a investi je ne sais combien pour le hand, c'était colossal, qui s'est doté quasiment de l'équipe de France.
Ouais, il y avait Karabatic
et tout ça. Bon bref, ils n'ont jamais gagné, donc ça veut dire qu'il y a des clubs aussi en Europe qui marchent très bien. Donc voilà, ce sera difficile encore une fois.
Timothée Rouvière, vous avez dit oui, il y a quand même l'ossature des champions du monde 2017. On a parlé de Thierry Omeyer qui a pris sa retraite. Il y a Nicolas Karabatic qui est absent, mais Vincent Gérard, voilà. Il y a du monde, il y a Lucas Karabatic, Fabregas, il y a Rémy Lee, Guigou qui a une expérience incroyable, comme Lucas Ballot et Valentin Porte. L'ossature est là, c'est ce qui va faire la différence.
Oui, moi je pense que c'est ce qui va faire la différence. L'ossature est là, c'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble, qui jouent parfois en club. Donc pour moi, cette équipe de France n'a pas forcément d'adversaire. On est sur un championnat du monde, donc qui est plus facile qu'un championnat d'Europe. On l'a bien vu avec les filles récemment. Et pour moi, l'équipe de France, depuis 10 ans...
Façon de parler, on est d'accord.
Entre guillemets. Hein. Et depuis 10 ans, l'équipe de France domine outrageusement le handball mondial. Et pour moi, il y a très peu d'équipes qui peuvent rivaliser. On pense à l'Allemagne, on pense au Qatar, mais
l'Espagne.
Sur une longue compétition, je vois pas des équipes comme ça concurrencer l'équipe de France qui a une terrible ossature, et avec des petits jeunes comme Rémy Lee, Fabregas ou même Dikamem qui joue au FC Barcelone, qui est un des plus grands clubs européens au niveau du handball.
Oui, ça va le faire. Messieurs, on va le dire à nos auditeurs, on connaît la finale de la Coupe du Monde d'avance. Entre la Coupe Davis et le football, on sait très bien que c'est France-Croatie qui va arriver.
Moi, je me méfie énormément des Espagnols.
Ouais, l'Espagne. L'Allemagne, ça fait longtemps que
l'Allemagne est dans l'Allemagne est dans la poule de l'équipe de France. Ouais. On rappelle, la France tenant du titre est dans le groupe A, avec l'Allemagne qui est pays hôte, avec le Danemark. Il y a la Russie, la Serbie, le Brésil et la Corée unifiée.
L'Allemagne pays hôte, c'est vrai qu'on en a pas, on en a peut-être pas assez parlé, mais l'Allemagne pays hôte,
c'est grosse ambiance.
Le Danemark et
la Norvège aussi.
toujours là.
La Norvège me fait peur. Alexander Sagosset, notamment là. Ils sont aussi champions du monde en titre. Donc, faut faire attention à la Norvège qui pourra rivaliser.
Seul au monde, non, du coup.
Non, moi, dès le début, je ne pense pas qu'il soit seul au monde. Je pense en plus la grande force de cette équipe, c'est l'humilité. Et à chaque compétition, même s'ils sont sur le toit du monde, ils retrouvent la motivation. Ça, c'est quand même incroyable, nécessaire pour pouvoir aller rechercher un titre. Et c'est pas le cas de toutes les équipes.
C'est la haine de la défaite. Omeyer l'avait parfaitement. Lui, il a jamais vu un joueur autant haïr se prendre un but, autant avoir la rage.
Moi, ce que je trouve fascinant aussi dans cette équipe, c'est que justement cette haine de la défaite, cet amour du maillot, c'est quelque chose qui se transmet. Et je compare souvent, en tant fan de rugby, la France au All Black, avec le handball, quoi. Et du coup, je trouve que c'est un peu la même chose. Il y a vraiment une transmission entre les générations. Là, justement, il va y avoir un petit changement, peut-être un début de changement de génération avec Karabatic qui est absent, ou Meyer. Bon, il était temps qu'il arrête aussi. Après, et là, on va avoir un peu de nouvelles têtes. Je pense qu'on va voir justement si cette filiation va continuer. Est-ce que le handball français va continuer à régner sur le monde avec de nouvelles têtes, de nouvelles figures?
On a dit, pour inquiéter l'équipe de France, il y a sans doute les Croates, les Allemands, les Norvégiens, les Espagnols. Quel est le piège finalement, Lucas Cerdic, pour cette équipe de France qui est, on le répète, double championne du monde en titre et l'équipe la plus titrée sur le plan international au handball?
Ouais, le piège, ça va être dès la phase de poule, ça va être de bien se mettre en route, de pas sous-estimer aucune équipe, ce qui les a toujours mis en difficulté en championnat d'Europe. En général, c'est là qu'ils craquaient. Timothée le disait tout à l'heure, les Coupes du Monde sont un petit peu plus faciles parce qu'effectivement, en poule, on croise des équipes peut-être un peu plus faibles qui nous permettent de nous mettre en route et voilà, les accidents sont plus rares et donc on peut aller plus loin, sans trop de dégâts. Bon, là, a priori, normalement, ça devrait bien se passer comme d'habitude. Mais s'il y a un piège à éviter, il est là. Et s'ils partent bien, après, ce sera des matchs au couteau, comme c'est tout le temps le cas. Et on verra bien s'il y a une différence.
Par rapport au tableau, ça se passe comment? Après, c'est.
C'est des poules de 6, c'est les 3 premiers qui passent.
Repart sur une autre poule.
Et c'est les deux qui passent pour les demi-finales et pour la finale. Timothée Rouvière, est-ce que l'équipe de France est au même niveau malgré les absences? On a parlé de Thierry Omeyer, on a parlé de Nicolas Karabatic, pardon. Est-ce que l'équipe de France est quand même au même niveau qu'avant? On a l'impression qu'on répète ça depuis des années. Ils ont été champions du monde en 2009, en 2011, en 2015, en 2017 et en 2019. Pardon. On a l'impression que tous les ans, on dit « Ouais, ils sont moins forts que l'année d'avant, qu'il y a 2 ans, etc. » Et tous les ans, ils reprennent le titre de champion du monde. À quel est le niveau de l'équipe de France de handball aujourd'hui?
Tout simplement la meilleure équipe de tous les temps, j'ai envie de dire. Mais oui, moi, je suis d'accord. Je pense que l'équipe de France a un moins bon niveau qu'avant. Entre 2009 et 2015, on voyait cette équipe qui gagnait tout, etc. Là, il y a eu quelques petits couacs. Il y a eu la médaille de bronze au dernier championnat d'Europe. Il y a eu cet échec olympique qui a fait aussi mal. Moi, je pense surtout que pendant ce mondial, l'équipe de France va devoir se trouver de nouveau leader. Quand on voit que les matchs sont un petit peu à couteau tiré durant le Money Time, les 5 dernières minutes, qu'il y a un Karabatic qui est là et qui va prendre le ballon, poser le jeu ou mettre les buts importants. Là, on va devoir voir des joueurs qui vont devoir prendre leurs responsabilités. Et c'est pas plus mal que Nicolas Karabatic ne soit pas là.
On pense, Lucas, peut-être à Ludovic Fabregas ou Nedim Remili qui joue au Paris Saint-Germain.
Nedim Remili, surtout.
Sont très jeunes et qui ont une expérience déjà.
Nedim Remili, arrière droit avec un bras gauche absolument monumental et qui effectivement a le potentiel pour être la figure de gondole de cette équipe. Mais moi je pense à un Toulousain, à Valentin Porte, qui lui commence à avoir de l'expérience et c'est à mon avis sur lui que l'équipe va devoir s'appuyer parce qu'en plus il est très polyvalent. Souhaitons lui le meilleur tournoi possible.
On espère que l'équipe de France sera championne du monde. Réponse le 27 janvier pour la finale. Le championnat du monde débute jeudi 10 janvier avec l'Allemagne, donc pays hôte, on en a parlé dans le groupe de la France, contre la Corée unifiée, la Corée du Sud et la Corée du Nord. On se retrouve nous dans moins de 4 minutes avec notre invité. À tout de suite. C'était Simon sur Radio Présence.
Oh là Simon là. And Garfunkel, par pitié, quoi. En entier.
Pardon.
Oh là 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 là.
Sportez-vous bien.
Oui, là.
L'invité.
Je sais pas parler.
C'est Simon et Cartoffel, quoi. Simon et patate. Oh là là.
Je sais pas parler anglais, je suis désolé. Monsieur notre invité et président d'un club dont le sport est roi aux États-Unis et presque inconnu en France, Arnaud Mongeny, président de l'un des clubs les plus anciens du football américain en France, débutant en championnat de D2 ce week-end. Les Ours veulent bien figurer. Arnaud, bonsoir.
Bonsoir.
Alors déjà, pour nos auditeurs, pour les auditeurs de Radio Présence, qu'est-ce que le football américain, tout simplement ?
Alors, football américain, c'est un sport de gain de terrain, principalement, où le but du jeu est d'amener la balle dans la end zone adverse, le camp adverse, afin de marquer, tout simplement.
Et quelles sont les règles ? Il y a des règles bien spécifiques. On en a parlé un petit peu avec le coup de cœur de Lucas Cerdic tout à l'heure. Il y a des similitudes très vagues avec le rugby. Voilà, c'est un sport de contact, de combat.
Alors la comparaison avec le rugby est normale vu notre région. Les règles sont complètement différentes. C'est deux sports différents. C'est comparer le tennis avec le badminton. Hein. C'est revient même.
Okay. C'est des cousins.
C'est des cousins, tout à fait. Bon, c'est un sport qui est centenaire. Hein, donc il y a des règles. Forcément, il y a des règles codifiées. Les règles sont assez simples. On a 4 tentatives pour faire 10 yards. Si au bout de la 4e tentative, les 10 yards ne sont pas faits, on rend la balle à l'adversaire. Et voilà.
Ce qui arrive très, très rarement, on peut le dire, puisque en général, au bout de 3 tentatives, quand on n'a pas passé, on préfère renvoyer au pied, quoi.
Ah oui, dans tous les cas, on rend la balle à l'adversaire quand même.
Oui, 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 bien sûr.
Mais ça voilà, donc les 3 temps, voilà, on va dire que dans une équipe de foot américain, il y a 3 équipes. Hein, il y a une équipe d'attaque, une équipe défense et une équipe de spécialistes, ce qu'on va dire. Et donc les 3 tentatives sont faites par les équipes d'attaque et de défense, et la 3e tentative est le dégagement au pied. Donc si on veut faire encore un comparatif avec le rugby, on va dire c'est une sorte de drop, on va dire, hein, où on va dégager la balle le plus loin possible pour rendre la balle à l'adversaire.
Est-ce finalement un sport plus stratégique qu'il en a l'air ? On peut parler de jeu d'échecs ?
Oui, Certaines personnes osent le comparatif avec les jeux d'échecs. Alors je sais pas qui, je serais pas capable de citer la source, mais oui, c'est un sport très très stratégique. Mais vous avez certainement vu ça à la télé, c'est un sport qui est très très saccadé, où c'est des actions qui durent entre 4 et 10 secondes maximum. 10 secondes, c'est quelque chose d'énorme pour le foot américain. Et entre chaque action, il y a à peu près 20 entre 15 et 40 secondes de pause, on va dire. Donc c'est pendant ces là que le coach va choisir la meilleure stratégie pour mettre en échec l'adversaire, donc soit en défense, soit en attaque, mais voilà.
Lucas Cerdic.
Combien il y a, parce que moi à chaque fois je suis épaté par le nombre de combinaisons qui existent. Alors bon, peut-être au niveau de Toulouse, c'est pas la même chose que voilà une équipe qui est championne qui a gagné le Super Bowl, mais il y a combien de combinaisons d'attaques possibles à disposition du quarterback, quoi.
Il y en a des centaines, des milliers. C'est un sport qui est centenaire, donc il y a beaucoup d'équipes. Ça dépend du coach en fait. Certains coachs vont privilégier le jeu au sol, certains vont privilégier le jeu aérien, la passe. Il y a énormément de tactiques, de styles de jeu. Il y a des styles de jeu comme la West Coast Offense par exemple, où c'est que des petites passes. Les jeux de la triple option, où on va principalement courir au sol. C'est un sport qui est très vieux. Il y a des facs qui ont inventé des styles de jeu. Des facs comme Delaware par exemple, qui a inventé le style la triple option. J'espère pas dire de bêtises, sinon les puristes vont m'engueuler après. voilà, c'est le genre de choses là. En fait, c'est un sport très très vieux, tout a été fait. Il y a plus rien n'est inventé.
À Toulouse, par exemple, quand on joue un match, il y a combien de combinaisons? Les joueurs savent qu'il y a à peu près combien de combinaisons possibles.
À notre niveau, à nous, le cahier de jeu d'attaque des ours, je pense qu'on doit être environ, peut-être une cinquantaine de jeux différents possibles. C'est très simple, en fait. Il y a quelques jeux de base, et après, à partir de ces jeux de base-là, on peut faire plusieurs variantes. Donc, ça multiplie le nombre de combinaisons possibles.
Dans le football américain, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs sports en un sport. Il y a le football américain, le flag et le cheerleading. Quelle est la différence entre ces trois disciplines et qui sont dans les ours, aux ours?
Oui. Alors, le foot américain aux États-Unis et comme tous les sports nord-américains, sont tournés principalement vers l'entertainment, donc le divertissement, le spectacle, ce genre de choses-là. Donc, le cheerleading est une discipline qui découle. Ouais. Qui est à la base faite par des hommes, quand c'était créé il y a presque une centaine d'années aussi. Donc ce sont des athlètes sur le bord du terrain qui font des. Il y a de la danse, c'est des athlètes, parce qu'on va appeler ça des athlètes, parce que ce qu'ils font, c'est de la gymnastique et tout ça. Donc on va faire. Si on fait un abus de langage à la française, on va dire c'est Pop Punk Girl. Aller appeler les cheerleaders Pop Punk Girl, ils vont hurler. C'est pas du tout la même chose.
C'est de la cro-gym en fait, c'est ça?
C'est de la. Alors ça peut être de la gymnastique rythmique, si vous voulez. Je sais pas si on peut trop comparer, pareil, c'est difficile, c'est pas les mêmes sports. Bon, en tout cas, ce sont les personnes, filles ou garçons, qui sont sur le bord du terrain, principalement les filles, mais il y a des garçons aussi, où ça va être déporter, jeter les personnes en l'air, faire des sauts, des pirouettes, des saltos, des chorégraphies, voilà. Si on peut comparer ça aussi, par exemple, en NBA, vous avez les troupes de danse, les dance crew, sur les bords du terrain, au milieu du terrain, qui viennent pendant les temps morts, tout ça. Voilà. Le foot américain fait ça. Nous, à Toulouse, notre équipe l'équipe de cheerleading, faut qu'on leur trouve un nom encore, c'est plus tourné vers la danse pour l'instant, donc la chorégraphie, voilà.
D'accord.
Et ensuite le flag, c'est donc le foot américain sans contact, mais c'est pas du foot américain, c'est du flag, donc c'est-à-dire qu'on a des bandes de tissu qui pendent de chaque côté de la ceinture, et donc les règles sont sur des terrains un peu plus petits, et c'est pareil, on a 4 tentatives aussi, donc on considère que la personne est plaquée quand on arrache le flag. Okay.
On a reçu Eddie Martin il y a quelques semaines, qui est l'entraîneur et joueur de hockey sur glace de Toulouse. Il nous disait que les règles varient entre les pays, entre les États-Unis et la France. Est-ce qu'il y a des différences, pareil, dans le football américain, sur les règles, sur les temps de jeu, sur la dimension du terrain? Y a-t-il des différences?
Alors, oui. On va dire qu'il y a les pros et il y a le reste du monde. Les pros en NFL jouent avec les règles NFL. Les terrains sont identiques, par contre. Sauf les Canadiens qui ont aussi un autre football à eux.
Les poteaux qui sont devant.
Alors ça, c'est au foot canadien, tout à fait. Le foot canadien joue avec un football des années 60, à peu près. Ils ont arrêté de faire évoluer les règles de football américain dans les années 60. Ils ont dit, bon, stop, nous, on arrête, on joue comme ça maintenant. Donc, ils ont un championnat professionnel eux aussi, qui joue aussi, je pense, aussi,
qui
leur permet de protéger, aussi de se protéger. On permet d'avoir un propre championnat, se faire
happer
par la NFL. Bref, en tout cas, les règles sont différentes entre les pros et les universitaires. Donc, nous, les pros, la NFL, jouent avec les règles NFL. Le reste du monde joue avec les règles universitaires NCAA.
Et sur les compétitions internationales pour les Coupes du Monde, on va peut-être parler des Jeux Olympiques tout à l'heure. S'il doit y avoir Jeux Olympiques, c'est les règles professionnelles ou c'est les règles universitaires qui dominent ?
Ce sont les règles
universitaires.
Amateurs, non professionnels.
Donc c'est aux Américains finalement de s'adapter.
Alors les Américains se débrouillent très 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 bien. C'est eux que c'est leur sport. Donc ils nous l'ont montré à l'année de la Coupe du Monde que c'était leur sport. Ils l'ont bien fait comprendre à tout le monde, en principe particulièrement à la France, où la France a pris le plus gros score jamais repris par la compétition internationale du Coupe du Monde. On a pris 82-0. Voilà, c'est le plus gros score jamais enregistré. C'était un match intéressant d'avoir des joueurs en face qui évoluent dans des facultés de première division, des gros, très gros programmes américains. Donc voilà.
L'équipe de France a été fair play sur ce coup-là. Maxime Brossard.
Pareil, pour revenir sur les installations, est-ce que c'est pas trop compliqué finalement ? Est-ce que toutes les municipalités sont équipées avec des terrains spécifiquement dédiés au football américain, ou est-ce que vous devez vous rabattre sur des terrains de rugby ou des terrains de foot un peu aménagés, ou comment ça se passe ?
Alors il y a plusieurs écoles. Nous à Toulouse, on a la chance d'avoir des très bonnes installations. On a un terrain synthétique qui est non négligeable en France.
C'est vous vers Rangueil, non ? C'est
aux Argoulets. Ouais. Donc le terrain est en terrain synthétique. On a des poteaux, on a notre terrain à nous avec notre tracé. On a nos vestiaires. Enfin, on est bien. On va dire, comparé à certains autres clubs, on est très bien. Ça pourrait être mieux. On n'a pas de tribune, par exemple. Ça c'est un peu compliqué pour recevoir le public, pour regarder les matchs. Mais c'est quelque chose de très bien. Les autres clubs, on principalement joue sur des terrains de foot ou rugby. Le problème du terrain de rugby, c'est que les poteaux sont à l'extérieur du terrain, donc du coup, il manque une vingtaine de mètres au milieu du terrain.
Ah ouais, d'accord.
Donc voilà.
Toujours sur un peu l'aspect régional, je voulais savoir si dans la région il y avait que les Ours de Toulouse. J'ai vu des affiches par-ci par-là. Il y avait dans les Scorpions de Muret, je crois. Il y a plusieurs équipes. Combien il y a d'équipes à peu près dans le bassin toulousain hein.
Alors le grand bassin toulousain, on va dire qu'il va jusqu'à Montauban.
Oui.
Voilà. Il y a quatre équipes. Il y a Toulouse, il y a la banlieue de toulousaine, Montrabe, Muret et Montauban.
D'accord.
J'espère oublier personne. C'est ça, les quatre principaux. Après, il faut aller jusqu'à Albi, ce genre de choses. Voilà.
Vous jouez en D2, c'est ça ?
Nous, les Ours, l'équipe principale des Ours est en D2, oui.
D'accord. Et il y a combien d'équipes en D2 ? Combien en D1 ?
En D2, on est 16 maintenant. Et on est première division, ils sont 12, je crois.
Okay. Le football américain, on en a parlé, n'est pas un sport olympique malheureusement. Est-ce que l'objectif c'est finalement Los Angeles 2028 ou les États-Unis, c'est voilà, on en parle, hein, c'est le sport roi là-bas. Est-ce que c'est pas le moment ou jamais de mettre le football américain aux Jeux Olympiques ?
Je sais pas. Je pense que le foot américain arrivera un jour, le sera. Il l'a été il y a très longtemps, mais je pense qu'il le ressera à nouveau olympique, peut-être en 2028 vu que c'est au Los Angeles. Non, 28, c'est très très loin. Le foot américain a déjà été représenté dans les World Games, donc ce sont les Jeux Olympiques des sports qui sont non olympiques, qui était un sport qui est organisé par le CIO, tout à fait, qui était tenu à Wrocław en Pologne en 2017, l'an dernier, du coup, où la France a gagné contre l'Allemagne.
Ah oui.
Donc c'était le premier titre de la France. Voilà, le premier titre international pour la France.
Bravo.
Donc c'était un sport invité qui a fait bonne impression au niveau du CIO. Donc la fédération y travaille, mais c'est pas l'objectif pour l'instant.
Et sur la France, on parle de l'équipe de France de football américain. Quelle est sa place dans l'échiquier mondial ? Il y a les Américains, les Canadiens. Là, je pense qu'on est tous d'accord. Europe, ça fait partie des meilleurs.
La France est meilleure puisqu'elle a gagné le championnat d'Europe cet été. Donc la France est championne d'Europe en titre cet été face aux Autrichiens. Au niveau européen, c'est la première. Et au niveau mondial, je pense qu'on doit être 4e, 5e.
Avec un fossé énorme.
Donc il y a les premiers, c'est Américains, Canadiens, Japonais, Mexique, à mon avis. Et la France est 5e, je pense.
Ah. Et une participation aux Jeux Olympiques, est-ce que ça boosterait les licences ? Peut-être des ours aussi ?
Oui, j'entends.
On parle au président.
Ah oui, je pense, oui. Mais, oui, comme tous les sports, les Jeux Olympiques, c'est moteur pour plein de sports. Et Bah, vous parliez du handball juste avant, dire le handball, ils sont champions olympiques à chaque, enfin ils sont
souvent,
très souvent, souvent donc ouais. ça multiplie les licences, ouais, forcément, je pense, ouais.
Maxime Brossard.
Mais finalement, moi, pour revenir au JO, est-ce que, enfin, j'ai pas vraiment l'impression que le foot américain ait besoin des Jeux Olympiques, quoi. J'ai l'impression, finalement, la NFL est tellement puissante. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas plus de matchs délocalisés en Europe de la NFL pour pouvoir attirer du monde? Parce que finalement, c'est un peu comme le basket, même si c'est aux Jeux Olympiques, finalement, ce qu'on retient du basket, c'est la NBA, quoi.
Alors, le foot américain européen a pas forcément besoin de la NFL, je suis pas sûr que d'accord. ça et inversement, l'inverse est vrai aussi. La NFL c'est les professionnels, donc leur but c'est au final même c'est du divertissement, ouais. Il faut faire de l'argent, hein.
D'accord.
Il y a eu la NFL en Europe, il y a eu des équipes européennes qui étaient inscrits en NFL, qu'ils ont arrêté ça parce que ça coûtait trop d'argent, c'était pas assez rentable.
D'accord.
Ils ont remplacé ça par des matchs à Londres chaque année. Ouais. Bon, je pense que ça suffit, c'est pas l'objectif. La NFL n'apporte pour moi, la NFL, ça va pas changer la face du monde du foot américain, d'accord. européen en tout cas, encore moins en France. Je suis pas sûr de ça. Mais c'est bien, hein, tant mieux. Hein. Je suis allé voir des matchs à Londres, moi j'étais content. Voilà.
Ouais.
La NFL, ça fait moins long qu'aller aux États-Unis, mais ça va pas changer la vie du foot américain français.
Hein. Ok, d'accord. Lucas Cerdic.
Qu'est-ce qui retient encore aujourd'hui des Français d'intégrer la NFL? On a vu qu'en basket, voilà, on en avait beaucoup maintenant. En NHL, il y en a quelques-uns. En baseball, ça pourrait arriver. On en avait discuté avec le directeur technique national ici même. Est-ce que au football américain, c'est quelque chose que vous pensez qu'il va arriver dans un futur proche?
Oui, je pense, oui. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu deux joueurs qui ont réussi à atteindre la NFL sans faire partie de l'équipe. Plusieurs Français, 5-6 à peu près. Donc, pour l'instant, il n'y en a qu'un seul qui a réussi à faire une saison régulière.
À jouer.
Voilà, c'est toujours le mieux. C'est Richard Tardis, dans les années 90. Mais depuis, il y a eu d'autres joueurs qui ont réussi à aller jusqu'en NFL, mais pas à faire de saison régulière. Mais qui ont fait des camps et qui ont réussi à faire les saisons l'après-saison.
Qu'est-ce qui les empêche encore? C'est la culture française qui n'est pas encore assez branchée au football américain?
Les tout premiers, c'était parce qu'ils n'avaient pas fait de cursus universitaire américain.
Oui.
Marc-Angelo Souma et Sébastien Sejean, ces gars-là avaient fait des. N'étaient pas à l'université américaine.
C'est difficile sans faire l'université.
Et les deux autres, ceux plus récemment, là, Anthony Dablé et Anthony Mangou, là, surtout Anthony a fait une fac de première div, mais elle n'a pas été retenue. Alors, je suis pas spécialiste, je sais pas pourquoi, je peux pas dire, mais je sais pas. Mais je pense qu'on va y arriver. Ouais.
Ça va arriver.
J'espère.
Ouais. On le rappelle, vous êtes le président des Ours de Toulouse. On va parler un peu du club, ouais. de Toulouse. De quoi il est composé? Quelles sont les structures qui composent le club? Il y a une section femmes, une section jeunes, très fort sur le centre de formation, c'est bien ça?
Alors, on a plusieurs sections. On a une dizaine de sections, enfin, pas moins de 10 sections. On va des moins de 14 ans jusqu'aux seniors, les vieux.
Les anciens.
Les anciens. donc, on a beaucoup de jeunes. On paye environ 300 licenciés, plus de 300 licenciés.
Et quand même.
Dont à peu près entre 100 et 120 jeunes, ce qui est ça notre.
Le vivier.
Voilà, le vivier, ouais, c'est important. Les jeunes, c'est la formation en fait. Hein. Pour avoir une bonne équipe senior, il faut avoir une bonne équipe cadet, une bonne équipe junior pour monter, ainsi de suite. Et donc voilà, après, au niveau des femmes aussi, on a. Alors le foot américain est un des rares sports qui peut se pratiquer mixte. Donc on est fiers d'avoir quelques filles qui jouent avec les garçons.
Deux femmes, c'est ça?
Voilà, on a plusieurs femmes. Alors, en foot américain vraiment pur, elles sont que deux pour l'instant, qui jouent avec les garçons. Il y avait une section femmes vraiment pure, femmes, une équipe féminine, qui a fermé, malheureusement. On a du mal à recruter les femmes. Et ensuite, une flag aussi. Donc le flag, par contre, là, il y a un peu plus de joueuses.
Vous-même, vous êtes président et encore joueur ou...
Alors moi, je suis président cette année et je joue un petit peu encore cette année. Ouais, parce que
vous avez quel âge?
Tant que le corps peut, on continue. J'ai 34. 34 en 2019.
Et ouais. Vous êtes quoi, j'imagine, linebacker? Enfin, vous êtes
moi, je suis l'homme de ligne, lineman offensif. Donc, centre, on va dire. Je suis centre. Voilà.
Justement, on parle de terrain. Les Ours commencent la saison samedi à Pessac.
Pessac.
C'est composé de 4 groupes, partie nord, partie sud, c'est bien ça? C'est un peu comme les conférences en NBA finalement.
Ouais, alors on joue Pessac, qui est. Nous contents pour un premier match parce que c'est un derby, le derby de la Garonne,
oui, contre des Girondins pour les casquets.
Et c'est un vrai derby parce que pour l'équipe adverse, c'est un derby aussi. Donc c'est pas que dans un seul sens. Ouais. Donc on est content de commencer avec eux, contre eux. Donc vous voyez, effectivement, les seniors vont jouer à Pessac et le lendemain, l'équipe réserve joue à Montauban. Donc week-end chargé.
Donc vous êtes en division 2. Au-dessus, bien évidemment, il y a la division 1. Comment on monte en division 1?
Alors, pour monter en division 1, il faut aller en finale de D2. Voilà. Donc
Les deux finalistes montent
et inversement, les deux plus bas descendent.
Vous êtes, si je dis pas de bêtises, vous étiez allé en finale de conférence, non? C'était l'année passée.
Oui, ça fait plusieurs années que voilà.
Et vous n'arrivez pas à franchir le
senior,
cap.
Les seniors arrivent en quart de finale nationale.
Ouais. Finale de conférence, c'est l'équivalent de quart de finale nationale, ouais, voilà. C'est ça. Ouais, d'accord.
Vous avez un passé en D1 ou c'est vous avez toujours buté à ce stade?
Les Ours n'ont jamais joué en première division.
Ouais, donc ce serait.
Alors ils ont joué en première division, mais il y a très très longtemps où il y avait que deux divisions. Donc.
Oui. Ouais.
Mais récemment, non.
Aujourd'hui, à l'aube de ce nouveau championnat, quel est tout simplement l'objectif des Ours de Toulouse? La montée, le maintien?
Alors, on va pas viser le maintien, c'est pas, on va se mentir, nous on veut aller le plus loin possible, l'équipe veut aller le plus loin possible, mais les coachs de l'équipe senior a des mots assez clairs là-dessus, match par match, donc les matchs sont préparés les uns après les autres. Même s'il y a un fil conducteur qui est d'aller le plus loin possible, on prépare quand même les matchs les uns après les autres.
La saison se termine quand?
Fin juin.
Et vous parliez de 300 licenciés tout à l'heure, il faut combien de joueurs pour faire une équipe en D2 aujourd'hui à Toulouse?
Il faut un effectif minimum 40 personnes. Pour avoir une bonne équipe de deuxième division, il faut avoir une quarantaine de joueurs sérieux à l'entraînement, muscu, préparation, entretien, voilà.
Vous avez un bon kicker?
Oui, là, il est parti dans le nord de la France là, donc il est parti, mais on en a un qui remplace, donc c'est bien. Il est bon aussi.
Et vous n'êtes pas professionnel?
Absolument pas.
Le football américain n'est pas professionnel en France?
Non, pas en France. Il est professionnel qu'aux États-Unis, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud un petit peu.
Merci messieurs, c'est déjà terminé pour ce soir. Merci Arnaud.
Merci à vous.
On se retrouve nous la semaine prochaine. Merci à Coraline et Grégoire à la réalisation. Retrouvez demain dès 7h Rémi Souloumiac, Isabelle Honnay et Corinne Saint-Félix. À 9h, Vivante Église avec Emmanuel Pella. On se retrouve lundi, bonne semaine avec Radio Présence.
Chaque semaine dans l'émission de Passage à Lourdes, je rencontre une femme ou un homme que la foi a conduit au sanctuaire de Lourdes. Chaque semaine dans l'émission de Passage à Lourdes, je rencontre une femme ou un homme que la foi a conduit au sanctuaire de Lourdes.